One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir dans Ping Pong, une documentariste et un cinéaste et acteur de fiction qui nous révèle une Palestine et une Tunisie inédites et inouïes, avec des hommes et des femmes qui se dévoilent et des langues qui se délient.
Ping Pong, la culture sans limite. Ping Pong.
Ce soir, dans Ping Pong, regard croisé et nouveau sur la Méditerranée et le Proche-Orient, avec la caméra embarquée de la journaliste et réalisatrice In Medeb, 5 ans après la chute de Ben Ali. C'est à travers le combat des rappeurs tunisiens dans tout le pays qu'elle mesure le passage d'une censure à une autre. Son documentaire Tunisia Clash sera présenté au cinéma Le Louxor à Paris le 2 juin prochain, en partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Et puis avec la caméra métaphorique des frères arabes et Tarzan Nasser, qui racontent le Gaza d'aujourd'hui à travers l'histoire d'un salon de coiffure coincé entre bouclettes et mitraillettes. Leur film Dégradé, présent à la scène de la critique au dernier festival de Cannes, sort ce mercredi en salle.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Elle s'est intéressée à l'insurrection qui vient du côté de la musique, avec les rappeurs sortis de l'invisible en Tunisie, comme ce El Général qui prône la chute de Ben Ali en 2011, le premier à montrer son visage à découvert, avec ce qui est devenu un hymne des révolutions de printemps. Ça s'appelle Raïs le Bladé, c'est pas ça qu'on écoute, on y reviendra plus tard. Avec le courant post-Moubarak au Caire, celui des jeunes gens qui s'inventent un avenir par le son, elle a raconté aussi l'électro Chabi. Fille du grand écrivain tunisien Abdelwahab Medeb, elle en a les convictions de celle qui refuse de dire que la musique c'est haram, en défendant le rappeur tunisien Webdel 15 qu'on entend pour le coup et qui a écopé de 2 ans de prison en premier jugement pour avoir traité les policiers de chiens. Elle a été arrêtée puis libérée le jour même à Tunis, un jour où elle le soutenait, histoire de lui faire peur. Ratée, elle vient de sillonner le pays sur les routes de tous les flots les plus engagés. Son film s'appelle Tunisia Clash. In Medeb, bonsoir.
Bonsoir.
Lui vient de Gaza, où un jour, dans le quartier de Shujaya, le chef d'un gang de trafiquants de drogue, prénommé Nawaf, après avoir trop regardé Scarface, décida d'enfoncer les grilles du zoo et de s'emparer du lion pour compléter sa panoplie de mafieux. Il captura en fait la lionne, Sabrine, et la garda 2 ans dans sa cour, histoire d'effrayer les mauvais payeurs. Et puis, le Hamas décida de récupérer la lionne et d'éradiquer le clan dans un bain de sang. De cette histoire de fou, notre second invité, à lui, fait un film avec son frère Tarzan. Attention, pas un documentaire animalier, ni un film de gangster, non. Ses frères jumeaux en ont fait un film de femme au bord de la crise de nerfs. Une comédie dramatique en 8 clos, sise dans un salon de coiffure plus petit qu'une chatte de fourmis, comme le dit Safia, l'une des 13 Gazaouis qui vivent ce fait divers de l'intérieur, derrière des rideaux tirés, tout en se crêpant le chignon et en devisant sur les torts du Hamas, de leurs hommes, ou encore sur les mérites de la drogue. Le film, remarqué au dernier festival de Cannes, s'intitule Dégradé et nous entraîne dans une escalade aussi tragique que réjouissante. Bonsoir, Arab Nasser.
Bonsoir.
Arab Nasser dit de ce salon de coiffure que c'est une métaphore de Gaza. La vie est souvent merdique, mais on y rit parfois. Ça s'applique pas si mal aussi au Tunisia Clash de In Medeb. La vie est merdique, vous dites les rappeurs et les jeunes que vous croisez, car vous partez sur les routes de tout le pays, en Tunisie. Mais on y rit parfois et on y rappe beaucoup, simplement dans des conditions de plus en plus difficiles. Vous avez vu la situation évoluer depuis plusieurs années, In Medeb. Et au départ, on se retrouve en prison quelques mois pour une boulette de shit. C'est, on va dire, de pire en pire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment évoluer cette chasse aux rappeurs, vous qui les présentez systématiquement avec leur nombre de vues sur YouTube et leur nombre de mois de prison?
Alors c'était une manière un peu de montrer aussi l'influence qu'ils avaient, parce que le film est très intime et donc on est tout le temps avec eux, de leur point de vue. On se rend pas forcément compte que c'est des stars dans leur pays, donc c'était important pour le spectateur de lui indiquer qu'effectivement ils sont très très suivis. Ensuite, la situation, elle était au moment du tournage vraiment particulière, parce qu'il faut rappeler que le film a été tourné en 2013. Donc à l'époque, c'était le parti Ennahda, le parti islamiste qui était au pouvoir, et donc ils se retrouvaient pris entre deux chapes de plomb, entre celle des conservateurs religieux religieux, et en même temps de cette police qui revenait en force, qui avait été un peu sur la pédale douce juste après la Révolution. Les 9 mois qui ont suivi la Révolution en Tunisie, la police rasait les murs, il y avait une espèce de liberté partout, tout le monde parlait dans la rue, Avenue Bourguiba. Ça a été un moment de liberté d'expression absolue qui a fait émerger ces rappeurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont commencé à sortir leurs clips, leurs chansons, à les mettre sur YouTube, à être extrêmement suivis, puis à être invités à la télé, à être partout. Donc ils ont été identifiés. Mais il se trouve qu'une fois qu'il y a eu un gouvernement qui a été élu, 9 mois après la Révolution, ce gouvernement a fait alliance avec l'ancienne police de Ben Ali. Donc à ce moment-là, c'était le parti islamiste Ennahda, qui poursuivait aussi les rappeurs pour des raisons de questions de mœurs et d'une vision de la société. Ils n'ont pas du tout la même vision. Mais aujourd'hui, les rappeurs sont tout aussi inquiétés par cette police qui a carte blanche, parce qu'on a vu en Tunisie la montée du terrorisme, beaucoup d'attentats qui ont eu lieu ces 2 dernières années. Et donc, même si le gouvernement n'est plus un gouvernement islamiste, ce gouvernement continue de faire alliance avec cette police qui utilise les mêmes méthodes que du temps de Ben Ali et qui aujourd'hui, sous prétexte de défendre le pays contre le terrorisme, fait régulièrement des bavures, torture dans les commissariats. Et donc, il y a un réel problème de rapport entre cette jeunesse qui a fait la révolution, particulièrement dans les quartiers populaires, et cette police qui n'a toujours pas été réformée. 5 ans après la révolution, elle n'a pas changé. C'est la même, c'est les mêmes gens qui sont là dans ce ministère de l'Intérieur qui était tant honni du temps de Ben Ali.
Vous, Arab Nasser, vous incarnez cette jeunesse de Gaza. On dit que vous êtes né en 1988, un an après la fermeture du dernier cinéma de Gaza. Vous êtes aussi bien connu, non seulement des critiques cinématographiques qui vous ont repéré, non seulement à cause de votre allure chevelue, de vos beaux yeux marqués de kohl, hein, vous et votre frère Tarzan, c'était au Festival de Cannes, mais repéré aussi pour la qualité de votre film dégradé. Peut-être que vous êtes aussi bien connu des services de police du Hamas à Gaza en particulier, avec ce film dégradé qui met en scène 13 femmes qui ont, disons-le, autant de tchatch et de colère rentrée que les rappeurs que présente In Medeb dans Tunisia Clash, des femmes qui sont 13 archétypes et qui sont en même temps beaucoup plus complexes que ce à quoi on pourrait s'attendre. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de les réunir comme ça, derrière les rideaux? Comment ça a germé dans votre crâne chevelu? On n'a pas l'impression que vous allez souvent chez la coiffeuse. Et racontez-nous un peu comment ces actrices-là, qui sont très talentueuses,
y a beaucoup de boulot, hein.
Se sont réunies et on rejoint votre tournage.
في البداية كان
كان
الحديث عن موضوع الحياة كحياة.
Parlions en fait, nous voulions parler de la vie quotidienne à Gaza. Beaucoup de gens ne savent pas en fait quelle est la qualité de la vie ou la saveur de cette vie quotidienne dans un lieu aussi circonscrit géographiquement que Gaza. On a parfois l'impression que dans cette bande de Gaza, les gens ne vivent pas 24/24, que leur vie tourne autour de la résistance. Et donc, nous voulions, nous, véhiculer une image différente de la vie, de cette vie quotidienne des gens. Et nous avons donc choisi de présenter une métaphore qui nous permet de parler de Gaza, de la vie à Gaza, et ce, à travers cette présentation d'un instant dans la vie d'un salon de coiffure petit, un salon modeste, aux allures modestes, mais plein de couleurs vives. Mais c'est également un salon qui est animé par la présence d'un certain nombre de personnes et de personnalités très différentes. Et nous avons donc choisi d'avoir un groupe ou un éventail de femmes afin de pouvoir parler de la vie dans sa diversité. Nous avons essayé de dire comment les femmes vivent dans ce lieu. Et nous avons également essayé de refléter le degré de conscience de ces femmes qui vivent dans ce lieu si petit. Donc nous avons choisi d'avoir un groupe de 13 femmes qui sont véritablement une représentation symbolique et métaphorique des habitants de Gaza au nombre de 1,5 million d'habitants. Et nous avons essayé également de montrer cette interaction entre l'intérieur, les problèmes de l'intérieur et les problèmes de l'extérieur avec le lion. Et également, c'est une lettre d'amour de Gaza qui est émise vers le monde entier. Et c'est pour cela que nous avons donc choisi ce thème, le thème de dégrader.
Ce gynécée de 13 femmes et donc autant de points de vue. Hein. C'est donc un panel de la société gazaoui aujourd'hui. Le point de vue des femmes, on l'entend aussi dans le film d'Ibn Medeb, Tunisia Clash. Il y a évidemment le point de vue de Shema, qui est une rappeuse. Alors, elle est à 400 000 vues sur YouTube, à peu près. Et elle rappe aussi très violemment contre les institutions en place et contre la police. On entend aussi Klebe Bedji, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors lui, il a par exemple ces mots, hein, les flics... violent, mais nous interdisent de baiser. Ce sont des mots très forts quand même. Donc il y a une situation de la femme aussi que vous avez tenté de montrer, peut-être que vous n'avez pas tout dit dans le film, et que vous avez perçu aussi dans l'évolution post-Ben Ali, Medeb.
Alors, l'évolution post-Ben Ali, ça a été notamment l'arrivée des islamistes au pouvoir, le retour en force d'un groupe comme Ansar el-Sharia qui était interdit du temps de Ben Ali, enfin tout était interdit de toute façon du temps de Ben Ali, mais qui a été autorisé après la révolution et qui a commencé à prendre une place très importante dans la société, à tel point qu'à un moment donné, même le parti islamiste Ennahda a été obligé de les interdire à nouveau parce qu'ils voulaient proclamer le califat, ils étaient en train d'organiser un congrès, ça c'était en mai 2011. Donc il a commencé à y avoir, oui, effectivement, beaucoup plus de femmes voilées dans la rue, une certaine pression religieuse, une certaine vision de la société qui était défendue par Ennahda. Et souvenez-vous, à cette époque, beaucoup d'artistes ont été mis en prison, pas seulement les rappeurs.
Les blogueurs, vous
donc,
le montrez, les réalisateurs.
Oui, les blogueurs. Il y avait eu à l'époque la première fémène du monde arabe, Amina, qui avait été mise derrière les barreaux, alors qu'en fait, elle avait commis aucun crime. Elle avait simplement été assistée au congrès des islamistes. Elle allait sortir une banderole et elle a été arrêtée. Elle a passé quand même 3 mois en prison. Elle avait... C'était l'année de son bac. Et puis aussi,
Amina Tyler, on se souvient, c'était
voilà,
son pseudo.
C'était son pseudo. Bon, il y avait aussi des réalisateurs, des artistes, des gens qui ont été mis en prison à ce moment-là parce qu'ils étaient athées. Donc deux habitants de la ville de Mahdia, dont l'un des deux a réussi à fuir et à venir s'installer en France. Et l'autre, par contre, s'est retrouvé derrière les barreaux pendant presque 5 ans. Donc voilà, c'était une période assez particulière avec un retour en force d'une forme de conservatisme religieux. Donc, mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que ce personnage de Shaima dans le film, c'est qu'elle montre toute la complexité. C'est-à-dire qu'on n'est pas, rien n'est noir ou blanc, tout est en nuance. C'est une fille qui fait du rap, qui est extrêmement libre dans sa manière de vivre. Et en même temps... son père fait partie du parti Ennahda. Et donc elle raconte comment quand elle est gamine, son père la laisse sortir, faire ce qu'elle veut, et qu'il y a un décalage entre finalement la liberté qu'elle a et le fait que son père appartienne à ce parti, et qu'il y avait un commissariat de police juste à côté de chez elle, et que les flics se demandaient toujours comment son père la laissait sortir. Et son père d'ailleurs, elle le raconte, a passé toute une partie de sa vie en prison, parce qu'il était militant islamiste sous Ben Ali. Et qu'être militant islamiste sous Ben Ali, ça voulait pouvoir dire se retrouver en prison. Donc sa haine de la police vient de là. Puis ça a changé, oui, effectivement.
Mais elle dit que les femmes peuvent tout faire, même le rap.
C'est ce qu'elle pense.
Est-ce que c'est possible ?
C'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai rencontré d'autres rappeuses qui rappent, mais qui ne veulent pas, qui ne le rendent pas public, avec lesquelles c'est très compliqué avec leur famille. Mais globalement, c'est quand même une société, la société tunisienne, très ouverte et beaucoup plus ouverte que ses voisines, enfin en tout cas que ce qu'on peut voir en Algérie ou même en Égypte pour les femmes. Et la situation extrême que moi j'ai pu connaître en tournant en Égypte, d'observer à quel point les femmes étaient harcelées sexuellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce très beau film de Mohamed Diab, Les femmes du bus 678, c'était un film qui parlait de la violence qui était faite aux femmes dans la rue en Égypte. C'est pas le cas en Tunisie. Il y a une véritable liberté de circulation des femmes en Tunisie, aujourd'hui.
Et donc je vous propose à présent de retourner à Gaza et de nous enfermer volontairement dans le salon de coiffure de Christine.
Marhaba,
Ahlan.
اللي بتفهم كلنا نسوان هنا في الصالون ما تشطح الخيم اللابس فيها وتتبلبطي
يا اختي انت شو دخلك فيني انا اختصري
فكيني انت الثانيه بدي اخلص
بدها كمان عشان الكل يسمعها
الله اكبر
اذا قصيتي شعرك يا ري والله لا تطلع شقفي بالبقلك
كيف بدك اعمل شعرك يعني بجرده
يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالون اللي قد كسر عقربه
الله عروسه مش انتو ما بدي قص شعري
بعمل لك بطبع بسيج
معلش يا اخوات انا مشوار
هاك يا فكروا الصالون بنستيل خنا ولسه
هيدا انحشرنا عجبك
Dégradé, le film de Arab et Tarzan Nasser qui sort mercredi sur nos écrans avec notamment Iyam Abbas, Victoria Balitska, Manal Awad hein, dans le rôle de Christine, d'Eftikar, de Safia, de Wedad, j'en passe. On est avec ces 13 femmes donc dans le salon de coiffure où la tension monte et la chaleur aussi. Alors, on dit... Arab Nasser, que la première chose que vous avez vue à la télévision et peut-être qui a décidé de votre carrière de cinéaste, c'était un film érotique israélien. En tout cas, il se trouve qu'en 2013, un de vos premiers courts-métrages, c'est Condom Lead, un court-métrage sur la sexualité en temps de guerre. Là, on entend parler de sexualité, d'amour, dans Dégradé. Est-ce que, plutôt peut-être qu'un film érotique, on a affaire avec Dégradé à une comédie romantique, en tout cas un grand film d'amour?
Si vous voulez parler de tout début, eh bien, je vous dirais que les premières images que nous avons vues dans notre vie, c'était des images d'amour. Et c'est ça qui nous a véritablement initié à la magie du cinéma. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui est toujours articulé autour de l'amour, l'amour qui doit être central dans la vie. Et je dirais que la première image que nous avons vue lorsque nous avons déménagé pour nous installer tout seul et regarder la télévision, c'était effectivement une image d'amour. Et pour nous, c'était un monde étrange que nous n'avions jamais vu jusque-là. Et nous avons commencé à ce moment-là à nous lancer à l'exploration de notre corps, également à la découverte de l'amour. Ce n'était pas un film israélien, c'était un film qui était diffusé sur une chaîne israélienne. Parce que, en fait, avec notre petite antenne, nous ne pouvions capter que cette chaîne israélienne. Et c'est comme ça que nous avons donc été initiés à la découverte de l'amour. Et lorsque nous avons commencé à travailler, il y a quelques années, sur ce documentaire, sur l'amour en temps de guerre et le sexe en temps de guerre, nous avons essayé de dire que lorsque l'on parle de guerre, tout de suite, les images que cela évoque, ce sont des images de sang, de destruction, mais on pense jamais que la guerre peut également porter atteinte à quelque chose d'autre qui est une vie intime, le droit à la vie intime, le droit à l'amour. Et nous avons essayé donc de montrer ici cette quête de l'amour et ce, dans une situation qui est inhumaine, une situation aussi difficile qu'une situation de guerre. Et là encore, dans Dégradé, dans le film, il y a un rapport à l'amour qui est un rapport assez complexe entre ce mafieux qui se trouve à l'extérieur et cette fille tout à fait modeste qui travaille dans le salon. L'amour est partout. Mais le problème, c'est la manière dont les gouvernements traitent l'amour et aborde l'amour. Et je dirais que la politique aujourd'hui véritablement tourne le dos à l'amour. Mais les problèmes des amoureux, ce sont des problèmes qui existent dans le monde entier, plus particulièrement dans les sociétés moyen-orientales. Donc, le fait de poser la question de l'amour et de la quête de l'amour dans un film de cinéma, surtout lorsqu'on est un cinéaste de Gaza, eh bien, je pense que c'est un sujet extrêmement important.
La question de l'amour et la question de l'espoir, c'est dans le Tunisia Clash d'In Medeb.
اجبد لي ستيل وقيد لي خان فرش همي اي هما وين يي يا ونحنا وين يي هما عسكر في النهضة وفتور في السلفين اي هما وين يي يا ونحنا وين يي هما اللي خانوا بلدنا وتجروا بالدين يشبيه الحق يي يحكموا الباطل يشبيه التونسي في التونسي اليوم يقاتل وزير مثقف ما فهم حكاية تمرو خايف عملوا له لجان حماية يرجع الحق بالانتقام صبابة تنكس في كساوي ضد النظام تاريخ مباعي كيما تشيل الكورة سيستام قبض بلادنا تتحكم بالغورة دي هما وين.
Sur les routes du rap tunisien avec In Medeb, on est du côté de Regheb, entre désespoir et désillusion aussi. Hein. On se retrouve avec un festival annulé pour ce qui est des concerts de rap, pour ce qui est du théâtre. On se retrouve avec des jeunes garçons assis au milieu des cailloux avec quelques notes comme ça jetées au stylo sur le papier, qui n'ont pas de studio pour enregistrer, qui n'ont pas de matériel, qui veulent faire du rap. Medeb, il y a presque un paradoxe dans votre film Tunisia Clash. On a l'impression qu'on met en prison les rappeurs pour des histoires de drogue assez anecdotiques et qu'en même temps, on fait tout pour pousser les jeunes, justement, vers la drogue. C'est ce qui se retrouve dans tous leurs textes. Il y a une sorte de désespoir, de désillusion. En gros, vous nous poussez, vous nous repoussez dans nos ghettos et vous nous obligez à prendre cette dope, finalement. C'est presque ça qu'ils disent.
Alors, ça va même encore plus loin parce que en réalité, on met en prison parfois des étudiants, des jeunes, parce qu'on les arrête et qu'ils ont un bout de shit sur eux, et que c'est une loi qui date de l'époque de Ben Ali, la loi B52, un joint, un an de prison, qui fait que des jeunes qui sont absolument pas des criminels se retrouvent dans les mêmes, à partager la même cellule que des serial killers. Et en même temps, des gens qui, à l'époque, il y avait eu l'attaque de l'ambassade des États-Unis par des groupes de salafistes, parce qu'il y avait eu un film sur le Coran qui était sorti, qui leur avait pas plu. Enfin, bon, voilà. Et eux avaient pris de la prison avec sursis. Donc, c'était une période très compliquée où les jeunes avaient l'impression que finalement, ceux qui ne faisaient rien de grave se retrouvaient derrière les barreaux, et ceux qui vraiment étaient un danger pour la société. Et c'était vraiment le moment où il y a eu la reconstitution, enfin la construction de ces groupes terroristes qui aujourd'hui sont en train d'envenimer le pays. Donc c'était vraiment un moment historique.
Et qui s'est construit sur la base de ce désespoir, de ce non-choix ?
Non, c'est-à-dire qui s'est construit sur l'irresponsabilité du gouvernement Ennahda qui était en place à l'époque, qui a complètement laissé faire les salafistes, laissé ces réseaux-là proliférer au risque d'amener le pays au bord de la guerre civile. Ce qui s'est passé après, ils l'ont regretté ensuite. Ils ont finalement pris le parti d'une union nationale avec l'actuel parti qui est au pouvoir. Mais en tout cas, ce qui était grave, c'est qu'on avait l'impression de vivre dans une société où il n'y avait plus d'hierarchie entre ce qui était réellement un crime, c'est-à-dire en fait prêcher dans certaines mosquées des prêches d'une violence inouïe, qui était autorisé, parce que sous prétexte de la liberté d'expression, et en même temps un jeune qui parle de sa rage, c'est une forme de catharsis, c'est pas la même chose qu'un prêche. Quand on fait une chanson, j'ai toujours dit que Weldel 15 avait cité Aristote dans le texte sans le savoir, la poétique d'Aristote, c'est-à-dire que il dit qu'il a mis... c'est un rappeur qui a fait cette chanson contre la police, et il dit j'ai mis toute ma haine dans cette chanson plutôt que de passer à l'acte et de faire de commettre des crimes. Donc mettre sa haine dans une chanson, l'exprimer sur scène, c'est la possibilité, c'est comme Oedipe Roy, on tue son père, on viole sa mère sur scène pour ne pas le faire dans la vie. Donc c'est une manière d'exorciser, de sortir, de sublimer toute la violence qu'on a en nous. Et c'est ce que ne comprenait pas à l'époque le juge qui l'a condamné, c'est-à-dire la différence entre la représentation artistique et une injure réelle dans la rue. Et puis aussi, c'est-à-dire que la même semaine, il y avait eu le procès de Weldel 15 condamné à 2 ans de prison pour une chanson, et la semaine d'avant, des salafistes qui avaient réellement commis des violences et qui prenaient du sursis. Donc on était un peu dans une période où ça marchait sur la tête. J'ai vu le film Dégradé, et Arabe a vu Tunisia Clash. Et ce qui m'a... parce qu'on a fait une projection dans le cadre du festival Fame à la Gaîté Lyrique il y a quelques semaines, et ils étaient enthousiastes sur le film, et moi, en faisant leur connaissance et en apprenant à les connaître, parce qu'ils sont produits par un ami à moi qui s'appelle Rani Massala, je me suis rendu compte à quel point il y avait des similitudes entre ces deux réalisateurs, Arabe et Tarzan, et ces rappeurs sur lesquels j'avais fait un film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des pays ou des moments historiques que traversent ces pays, que ce soit Gaza ou la Tunisie post-révolutionnaire, où on peut pas se contenter d'être artiste, en fait. Il faut aussi être combattant, il faut aussi être prêt à aller en prison pour ses idées, pour faire changer les choses. En fait, c'est des moments clés. Et c'est des moments aussi où c'est des sociétés extrêmement conservatrices, avec des gouvernements qui empêchent cette évolution de la société. Et c'est vrai que Arabe et Tarzan ont été régulièrement, enfin quand ils vivaient à Gaza, ils se faisaient arrêter, pas toutes les 5 minutes, mais ça leur arrivait de se faire arrêter plusieurs fois par jour, juste à cause de leur look, parce qu'ils avaient une barbe, les cheveux longs, du curl sur les yeux, et que donc ils correspondaient pas à la vision que le Hamas avait de ce qu'était un bon musulman. Et ils se retrouvaient, aller en prison, à être mis en prison régulièrement, à pas pouvoir obtenir des autorisations de tournage, à pas pouvoir tourner en fait leurs films dans leur propre pays. Ce qui explique leur exil d'abord en Jordanie et aujourd'hui en France.
Précisément, Arabe Nasser, si les rappeurs tunisiens qu'a interviewé Inmedeb font du Aristote sans le savoir, vous faites du Aristophane dans Dégradé, puisqu'on est dans l'Assemblée des femmes, à un moment en particulier de votre film. Votre frère Tarzan, non content de réaliser avec vous Dégradé, eh bien joue un rôle. Il joue Armad, le trafiquant, le mafieux, celui qui va voler le lion du zoo de Gaza, celui qui est aussi trafiquant d'armes et de drogue. Vous, en qualité de cinéaste, c'est un rôle de composition, vous vous sentez un petit peu trafiquant. Qu'est-ce que vous amenez en contrebande à Gaza en faisant du cinéma ?
Et bien en fait, on fait de la contrebande de la vie. L'idée de la liberté, comme l'a dit Hind, ce n'est pas une idée ou problématique uniquement pour Gaza. C'est un problème que l'on vit dans tous les pays arabes. Il y a en fait un mirage, le mirage de la démocratie, mais c'est un mirage qui fait peur aux gouvernements qui n'ont pas envie d'autonomiser les citoyens. À travers un régime démocratique. Et en fait, cette famille de trafiquants a été l'objet donc de cette campagne du Hamas en raison donc de cette liane, mais ce n'est pas la véritable raison. Il se trouvait que le Hamas ne voulait pas laisser la place ou laisser une marge de manœuvre à une opposition. Donc les gouvernements islamistes dans l'ensemble estiment toujours que vous êtes soit avec eux, soit contre eux. Donc soit vous êtes avec moi, vous êtes un de mes alliés, ou alors vous êtes contre moi. Il n'y a aucune place à la liberté et au libre arbitre. Et donc, si vous voulez exercer votre liberté et ne pas être d'accord avec vous, eh bien, on va vous combattre. Alors, on va vous combattre à l'intérieur, on va vous combattre à l'extérieur. Et lorsque nous, on a été obligés de quitter notre pays, nous avons essayé tout simplement de dire ce que nous voudrions que notre pays, que notre société soit. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, modestement mais pernicieusement, essaye de faire de la contrebande de vie.
À suivre, un salon de coiffure transformé en bunker et des rappeurs révolutionnaires qui n'entendent pas se faire voler. Leur révolution, c'est avec nos invités Arab Nasser et Hind Medeb.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Et ce soir, je consacre mon dossier du jour, bien sûr, à la contestation des intermittents du spectacle. Vous le savez sans doute, hier devait avoir lieu la dernière réunion de négociation entre les syndicats de salariés et les représentations de patrons dans le spectacle pour négocier un fameux accord sur l'intermittence. Elle s'est assez mal terminée et une nouvelle réunion doit avoir lieu demain. La date butoir, c'est jeudi. Vous le savez, l'intermittence, c'est un régime particulier de l'assurance chômage. Ça n'est pas un statut. Or, l'assurance chômage est totalement déficitaire. Le MEDEF, dans une lettre de cadrage du 24 mars dernier, a demandé au régime en entier de faire 800 millions d'économies. Et sur ces 800 millions d'euros d'économies, un effort particulièrement important est demandé aux annexes 8 et 10, qui sont relatives à l'intermittence, de l'ordre de 185 millions d'euros. Un effort jugé beaucoup trop important par les intermittents, qui ne représentent que 4% des chômeurs. Et pour faire pression dans le cadre de ces négociations, plusieurs cinquantaines d'intermittents ont occupé ces dernières semaines plusieurs théâtres publics à Caen, à Bordeaux, à Montpellier. Ça s'est plutôt relativement bien passé. Mais depuis ce dimanche, ils sont à l'Odéon. Hier, des échauffourées avec la police ont eu lieu. Mais ils ont décidé de rester, comme l'explique Maxime. Il est comédien.
Notre ligne, depuis que nous avons mis notre premier pied à l'Odéon, c'est de rester ici et de l'occuper le temps qu'il y ait ces renégociations des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage qui reprennent demain dans l'après-midi. Notre rapport avec le théâtre, c'est le même depuis maintenant le début de cette occupation. C'est qu'à chaque fois, on fait des demandes pour pouvoir avoir une assemblée générale avec les gens de l'extérieur, pour pouvoir travailler ici. Toutes ces demandes, à chaque fois, nous sont refusées. Et on comprend qu'en fait, ce n'est absolument pas le théâtre qui a la main mise dans ces discussions. Ça dépend directement des ministères. Ça nous prouve que cette occupation, elle est d'autant plus légitime. Nous touchons directement au ministère. Ministère de la Culture qui est en rapport avec ce théâtre, plus vastement le ministère du Travail, puisque les négociations de l'assurance chômage dépendent directement de ce ministère-là, de même que la loi El Khomri, qui actuellement fait débat dans la rue. C'est ce ministère-là que nous visions aussi, et le ministère de l'Intérieur, puisque c'est lui qui a ordonné ce blocus policier.
Voilà, Stéphane Brunschweig, le directeur de l'Odéon, a-t-il encore la main sur l'Odéon ? En tout cas, il était resté silencieux jusqu'à ce soir et il y a quelques minutes, il a décidé d'annuler les représentations, la représentation de Phèdre avec Isabelle Huppert qui devait avoir lieu ce soir dans un contexte policier qu'il déplore.
On a décidé de ne pas maintenir la représentation de ce soir. J'avais, au début de la journée, je pensais qu'on allait la maintenir. J'avais même proposé que les occupants actuels puissent prendre la parole pour expliquer leur position au public. Mais c'est vrai que les événements de hier soir et puis le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont appelé à venir manifester m'ont fait penser qu'on ne pouvait pas assurer la représentation dans de bonnes conditions. Je pense vraiment que faire venir du public, faire une représentation avec un encadrement policier, c'est vraiment pas possible. En plus, hier soir, il y a eu des violences policières qui sont quand même tout à fait regrettables. Donc, voilà, aujourd'hui, moi, je pense que les conditions sont pas réunies pour qu'on puisse tenir la représentation. Et évidemment, pour moi, c'est la mort dans l'âme, hein, parce que annuler une représentation, c'est toujours très, très douloureux. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours.
Stéphane Brunschweig, qui est évidemment dans une position de porte-à-faux, puisqu'on le sait, l'occupation du théâtre de l'Odéon est très forte symboliquement. En 1968, elle avait coûté sa place à son directeur de l'époque, Jean-Louis Barrault. Alors, Stéphane Brunschweig, justement, est toujours assez ambigu dans sa déclaration, puisque d'un côté, il dit condamner les violences policières, mais il n'a pas l'air extrêmement satisfait de l'occupation. Écoutez-le.
Plusieurs fois accueilli des assemblées générales d'intermittents du spectacle, notamment quand j'étais à la direction du théâtre de la Colline. Là, ils sont dans une autre démarche. Ils sont venus, ils ont occupé d'une manière relativement d'ailleurs pacifique. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait comme on ferait une demande il y a une semaine, parce que ça s'organise, une assemblée générale. Ils nous disent ben, maintenant ouvrez l'Odéon, faites une assemblée générale. Mais d'un autre côté, on a en même temps des appels à occuper l'Odéon. Moi, je ne peux pas laisser occuper l'Odéon, tout simplement, je pense pas que le moyen d'occupation ou d'annulation des spectacles soit la meilleure arme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dialogue, c'est de parler dans des conditions de sérénité. Et j'ai vraiment l'espoir que on va pas revivre ces moments particulièrement pénibles qu'on a vécu hier soir et que les gens pourront s'exprimer avec sérénité.
Alors, la situation sera plus claire demain avec cette fameuse réunion de négociation qui aura lieu dans la matinée. En tout cas, l'espoir est grand, mais les chances sont plutôt minces, puisque du côté de la CGT, on nous indiquait que les propositions transmises par le MEDEF n'étaient pas satisfaisantes et que pour le moment, le compte n'y était toujours pas. Un mot, quelques brèves. Big Ben va être réduite au silence pendant plusieurs mois. La plus célèbre cloche du monde qui sonne toutes les heures et qui met un long gong différent tous les quarts d'heure va être réparée pendant plusieurs mois. Le coût total des travaux s'élève à 29 millions de livres. Et puis les restes du poète et prix Nobel de littérature chilien Pablo Neruda, qui avait été exhumé en 2013, ont enfin été à nouveau inhumés. Cette inhumation avait eu lieu pour tenter d'éclaircir les circonstances de son décès, car certains soupçonnaient un empoisonnement par le régime de Pinochet. Les analyses n'ont pour l'heure pas apporté de réponse définitive.
Merci Zoé, on vous retrouve vers 19h50 pour le disque du jour.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Allahu Akbar. La retraite, c'est vraiment une chale.
أنا بدي أعرف شو مصبب هذا المكان؟ شو بتلاقي مكان تاني تستأجري؟
أنا ما بعرف ليش أنا
شكله اليوم حناكل خرا ونكتر
بشوف كان بيقول أول مرة بتسمع عن صوت طخ
خليني كثير رح نستنى مش شوي
Alors quoi, vous avez jamais entendu des tirs de mitraillette ? Demande Safia à toutes les femmes qui sont autour d'elle dans le salon de coiffure de Christine. On est dans la bande de Gaza, on est dans Dégradé, le film d'Arabe et Tarzan Nasser qui sort mercredi. Dans cette ambiance de mitrailleuses qui sont en fait hors champ dans presque tout le film Arabe Nasser, il est question d'un conflit dans la bande de Gaza, mais pas du conflit israélo-palestinien, d'un conflit intérieur entre le Hamas au pouvoir et cette famille mafieuse qui a dérobé le lion du zoo de Gaza. Donc ces connards de mafieux, comme le dit une autre des femmes du salon de coiffure. Vous avez choisi justement de mettre en scène ce fait divers pour montrer que, dites-vous, vous n'êtes pas victime de la situation, mais plutôt que vous êtes victime, comme tous les Gazaouis, de vos propres démons, de vos propres divisions intérieures. Mais quels sont les démons qui vous divisent, qui vous déchirent, Arab Nasser ?
La Palestine est occupée depuis 1948. Et je pense que le monde entier connaît l'histoire de cette occupation. Et c'est d'ailleurs l'occupation depuis 48 se poursuit. Et nous, les Palestiniens, c'est comme si nous étions figés dans cette situation où nous ne pouvons finalement parler que de cette occupation. Cette occupation qui a fait oublier, ou ce discours sur l'occupation qui a fait oublier que nous sommes des individus, que nous avons le droit de vivre. Tarzan et moi, en tant que cinéaste qui essayons de faire une œuvre artistique et cinématographique, nous sommes convaincus qu'il faut absolument présenter notre vie et sortir de ce discours éternel sur l'occupation. Nous voulons dire que nous sommes certes un peuple militant qui lutte contre l'occupation, mais nous sommes plus que cela. Il faut changer donc le discours artistique, de changer le discours cinématographique sur la Palestine et la vie des Palestiniens à l'intérieur. Et je pense que c'est plus important que le discours sur l'occupation. Parce que je pense que le discours sur l'occupation s'est imposé à tous, tout le monde le connaît. Par contre, il n'y a pas de place pour un discours autre, et il faut imposer cet discours autre. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement victimes de divisions internes et intérieures. Nous avons deux gouvernements sur deux territoires. Et il y a également répression sous ces deux gouvernements, qu'il s'agisse de Gaza ou de la Cisjordanie. Donc la situation ne diffère pas. Donc il faut parler également de ce conflit intérieur, et il faut en parler parce que c'est ça qui va nous permettre d'y mettre fin. Je pense que nous pouvons y mettre fin. Et c'est pour cela qu'il faut absolument parler de cette question, pas simplement à travers notre film, mais d'un million d'autres films. Nous essayons ici de dire aux Palestiniens qu'ils sont capables de résoudre leurs problèmes. Leur problème, c'est un problème de liberté d'expression, liberté également de vivre une vie amoureuse. Ce sont des problèmes qui doivent être abordés. Donc il faut d'abord commencer par libérer nos esprits avant de pouvoir libérer notre terre. Nous voulons avoir une terre libre, nous voulons avoir un État libre, mais ceci ne peut se faire qu'en mettant à bas un régime oppressif et répressif. Il faut donc refléter cette réalité et la présenter aux spectateurs palestiniens avant de pouvoir la présenter au reste du monde. La vie à Gaza peut être très agréable, très jolie, elle a une saveur qui lui est propre et pas particulière. C'est vrai que nous n'avons pas un grand patrimoine architectural, nous n'avons pas de grands paysages naturels, nous n'avons pas de grandes montagnes, mais Gaza est aussi belle par la vie, la fontaine de vie que l'on y trouve. Nous avions avant un ennemi israélien à l'extérieur, aujourd'hui nous avons également un ennemi intérieur avec une occupation intérieure qui est symbolisée par ce gouvernement répressif, et nous avons toujours l'occupant extérieur. Lorsque l'on parle des femmes, je dois dire que les femmes palestiniennes, c'est pour nous un honneur que de les présenter de cette manière en tant que femmes qui aspirent à respirer. Et nous ne pouvons que respecter une femme qui continue à se mettre du rouge à lèvres, et ce, dans des situations de guerre telles que celle-ci. Et c'est pour cela que cette femme dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez jamais vu ou entendu un coup de feu ?» Donc nous essayons de montrer l'image d'une vie normale dans des conditions anormales.
Un contre-récit cinématographique donc proposé par Arab Nasser et Tarzan Nasser dans ce film dégradé. Inmedeb, vous l'avez vu, vous êtes donc l'auteur de Tunisia Clash dont on va reparler, mais c'est vrai que vous nous aviez adressé un petit mot sur le film dégradé des frères Nasser.
Un grand mot,
un long mot, et vous citiez notamment Tarzan, donc le frère d'Arab, en disant voilà, il avait préciser que oui, il était musulman, mais si l'islam était devenu ce qu'il était, il n'avait plus rien à voir avec l'islam. Dans ces conditions-là, c'était une religion qui s'appelait islam, mais c'était plus vraiment de ça dont il était question, car l'islam, c'est plutôt une relation entre Dieu et moi, dit-il. Ça n'a rien à voir avec ce que pensent les gens. Personne n'a le droit de me juger, de me dire tu vas brûler en enfer ou tu vas aller au paradis. Ma relation avec Dieu ne regarde que moi.
Et c'est ce que disent aussi les rappeurs dans Tunisia Clash, en s'adressant au gouvernement islamiste, en disant on n'a pas besoin de parler de religion, nous on est déjà musulmans, croyants, on n'a pas besoin de vous pour nous expliquer comment on doit pratiquer notre religion. Ce dont on a par contre besoin, c'est d'une réelle politique pour plus de justice sociale, pour le partage des richesses, pour lutter contre le chômage des jeunes. Donc il y a une réelle attente en fait dans ces sociétés, une attente qui est plus de culture, qui est plus de réponse aux questions sociales, plutôt que de se focaliser sur un discours religieux, sur la question des mœurs. Je trouvais ça très intelligent de la part des rappeurs tunisiens que je suis allée voir, c'est que en fait eux, ils n'avaient pas voté particulièrement pour Ennahda, mais ils venaient de quartiers où les gens avaient beaucoup voté pour Ennahda et ils n'avaient pas de point de vue sur ce parti. Ils se sont fait une idée une fois que ce parti s'est retrouvé au pouvoir et qu'ils ont compris qu'une fois de plus, la religion était instrumentalisée à des fins de prise de pouvoir et qu'il n'y avait pas moins de corruption parce que c'était un parti qui était religieux. Alors que dans l'imaginaire collectif, il y avait cette idée qu'on doit voter pour un parti religieux parce que ce parti religieux va être moins corrompu que les partis qu'on a eu avant au
pouvoir. Parce qu'il craint Dieu.
Exactement. Mais finalement, c'est pas ce qui se passe.
Ouelle Delkin, justement, fait partie des rappeurs qui ont témoigné dans ce sens. On va écouter un extrait de Tunisia Clash.
Le peuple tunisien leur a fait confiance. C'est parce qu'il n'est pas cultivé politiquement. Ils pensaient que parce qu'ils craignaient Dieu, ils allaient améliorer la situation. Mais c'est le contraire qui a eu lieu. Ils ferment les yeux sur la présence des terroristes dans la montagne. On a vu qu'ils fermaient les yeux. Par exemple, à la radio, Ranouchi parle aux terroristes comme à des enfants. Il leur dit « Le djihad, ce n'est pas là-bas, c'est en Palestine ». Quand le peuple manifeste, il se prend lacrymo et tire à balles réelles. Et les kamikazes, qui se font sauter, tu leur parles gentiment. Tu négocies avec eux. Mais enfin, c'est la guerre, c'est eux qu'il faut abattre. Ils sont en train de nous détruire. Ils sont une menace pour la sécurité du pays.
Ouelle Delkin donc est devant la télévision et vous parle à vous, Inmedab, et votre caméra embarquée sur justement le parti Ennahda et les islamistes au pouvoir. Depuis les élections sont passées en Tunisie, la situation a changé. Est-ce que justement cette guerre qu'ils menaient contre les islamistes au pouvoir et ces dérives-là, elles progressent selon vous qui êtes retournés en Tunisie?
On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont mené une guerre contre les islamistes. En fait, eux, ils menaient une guerre pour avoir la liberté d'expression, pour pouvoir vivre librement, s'exprimer, mais pour améliorer la situation des jeunes dans les quartiers populaires. L'obsession de ces rappeurs, et ça continue d'être toujours la même obsession, c'est de raconter ce qui se passe dans la rue au quotidien, dans les quartiers très pauvres, et finalement de dire ce qu'on ne voit pas à la télévision, d'être la voix de ces jeunes qui ne se reconnaissent dans aucun parti politique, enfin en tout cas dans très peu de partis politiques, peut-être certains partis d'extrême gauche, et qui ont l'impression qu'on parle toujours en leur nom, et finalement qui ne sont pas entendus. Donc c'est vraiment le rôle de ces rappeurs en fait.
C'est un mot qu'on entend
dans le sens, pas dans le sens de djihad, aller faire la guerre en Syrie, mais plutôt de faire cet effort, de faire parvenir ces voix qui sont souvent, oppressées, qu'on essaye de faire taire, qu'on essaye de ne pas mettre en valeur, parce que il y a beaucoup aussi. Dans ces sociétés-là, c'est des systèmes de caste, encore plus dans un pays comme l'Égypte. C'est-à-dire que quand vous venez d'un quartier pauvre, votre voix ne vaut rien. Et quand vous êtes jeune aussi. Donc ils sont sous une double peine, être jeune, venir d'un quartier populaire. C'est pour ça que les policiers s'attaquent à eux et pas disons que les policiers se croient tout permis face à ces jeunes parce qu'ils savent que personne ne pourra les défendre, qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir un bon avocat et qu'au final ils iront croupir en prison. C'est une manière en fait un peu d'écraser toute cette énergie qui fait peur. Et dans le film, il y a un moment donné un jeune homme dans le train qui reconnaît Ouelle Delkin et qui lui dit oui, c'est sûr. Les gens, cette société, le gouvernement au pouvoir a peur qu'il y ait une nouvelle révolution. Parce que c'est ces mêmes jeunes, si vous regardez les images, des premières images de la révolution en Tunisie en décembre 2010, ceux qui sont en première ligne et qui se prennent les balles, c'est ce qu'on appelle les émeutiers. C'est des jeunes de 20 ans avec des suites à capuche, avec un look de rappeur et qui écoutent cette même musique.
D'un mot Arab Nasser, vous avez vu le film d'Inmedeb, Tunisia Clash. Qu'est-ce qui a pu vous toucher dans son film et Peut-être vous pourriez nous dire si vous, vous-même, vous écoutez, vous n'avez pas un sweat à capuche hein, sur vos cheveux longs et votre chignon. Et...
Il est plutôt gothique.
Il est plutôt gothique, Arab Nasser, Dine Medeb. Vous écoutez du rap de Gaza ?
Enfin, il a le look du calife Haroun al-Rachid à Bagdad au XIIIe siècle.
Ah, c'est pointu.
Non, mais c'est vrai qu'ils sont fans hein, de la beauté des califes, des abbassides, des omeyyades. Ils me parlent toujours de cette grande époque de l'islam et ils disent que, justement, la manière dont ils s'habillent est un hommage modernisé.
C'est un djihad du look.
Voilà, c'est un djihad du look.
Son film s'est dégradé, c'est aussi un hommage à Zénobie, hein, qui a régné sur Gaza brièvement au IIIe siècle.
Il est submergé d'informations.
Pour être tout à fait sincère, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un film qui m'avait autant touché et ému dans son espèce d'anarchie organisée. En fait, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que ça m'a rappelé la vie que j'avais à Gaza avec mon frère Tarjan et avec également d'autres jeunes à Gaza. Et ce sont des histoires qui sont proches des histoires que nous vivons à Gaza ou que vivent les autres jeunes dans les autres pays arabes. Nous avons beaucoup de gouvernements dans le monde arabe qui veulent gouverner au nom de Dieu. Beaucoup de gouvernants qui disent qu'ils sont véritablement choisis par Dieu et qu'ils peuvent dire à la société ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui les autorise d'ailleurs à réprimer le peuple et à dire ce qui est bon, ce qui n'est pas. Donc, ils se permettent donc de prendre pour témoin les textes coraniques qu'ils interprètent comme ils le veulent. Et nous, ce que nous disons, c'est que ces gens, en fait, s'arrêtent toujours sur les futilités, sur le look de quelqu'un qui s'habille d'une manière particulière, qui a des cheveux longs, qui porte une casquette, qui se met du col, qui chante du rap, qui a le pantalon long, qui a le pantalon court. Et ils oublient les grandes questions. Or, aujourd'hui, il y a de très grandes questions qui minent les sociétés arabes. Et aujourd'hui, l'artiste, le poète, le romancier, le musicien arabe, ou le citoyen lambda a peur de parler librement. Donc, cette histoire des rappeurs tunisiens ou des rappeurs qu'elle nous présente est une histoire très proche de l'histoire mon histoire et celle de mon frère ou l'histoire des jeunes que nous avons côtoyés à Gaza. Ce sont des problèmes que nous vivons au quotidien.
Ping-pong. La culture sans limite.
Zoé, est-ce que vous allez faire le djihad de la musique avec votre disque du jour ?
Je ne sais pas quoi répondre à ce type de question. Néanmoins, je vous parle d'un disque du jour qui est le nouvel album des Woods. C'est un groupe américain qui vient de Warwick, à côté de New York, porté par le très messianique chanteur Jeremy Pearl. Leur nouvel album s'appelle City Sanitary in the River of Light, ce qu'on pourrait traduire par La ville mangeuse de soleil dans la rivière de lumière. C'est leur 9e album.
Ils
Le précédent s'appelait With Light and With Love. Donc il était déjà infusé par cette idée de lumière, et la lumière semble un peu infuser toute leur musique, une espèce de rock folk hallucinatoire, parfois très doux, parfois qui rappelle du jazz éthiopien, qui ressemble un peu à du George Harrison dans ses plus grandes heures. Démonstration avec Hit It On Your Wall.
Sing It On Your Wall, extrait du dernier album des Woods, City Sun Eater in the River of Light. C'est sorti début avril. Sachez qu'ils seront en concert à Paris au Psyche Festival les 18 et 19 juin prochains. Sachez aussi que tout cela est paru sur leur propre label Woodsist, qui est un label qui organise chaque année aussi un festival en Californie. Si vous êtes là-bas, passez faire un tour. Je crois qu'il y a des groupes assez sympathiques.
Et des cigarettes qu'il faut rigoler, à mon avis aussi, fort probablement.
Vous avancez, Mathilde.
À demain pour un nouveau disque du jour, Zoé, et un nouveau journal de la culture.
Ping-pong.
C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, Inmedeb et Arab Nasser. Inmedeb, donc, vous êtes l'auteur de Tunisia Clash, qu'on va pouvoir voir et revoir le 2 juin au Louxor, à Paris. Quant à vous, Arab Nasser, vous signez avec votre frère Tarzan le film Dégradé en salle mercredi.
Le ping-pong est un combat radiophonique qui se mène en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la traduction simultanée, franchement bravo, Asma Ben Yagoub. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. Et à la prise de son, Emmanuel Morzincan, Anthony Thomasson et Thibaut Germez.
Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, Géraldine Pellas qui redonne voix à des chants sacrés oubliés et Jean-Claude Héléna qui nous plonge dans les réminiscences du Jardin du Parfumeur.
Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.